Info rapide. On est de plus en plus nombreux et nombreuses en tant que freelance et entrepreneurs solo à ne plus en pouvoir des discours entrepreneuriaux qui prônent la croissance, les 6 chiffres annuels, le fait de toujours en faire plus et plus et plus. On cherche des alternatives, d'autres manières d'entrevoir l'aventure entrepreneuriale et le fait de développer nos business, mais malheureusement, la plupart des offres d'accompagnement, de coaching ou de formation sont encore uniquement dans un prisme croissance business. En ce moment, on est en train de faire, comme chaque année, notre période de recrutement pour les 30 personnes qui rejoindront la promo de notre programme Surf. Le programme Surf, c'est un programme d'accompagnement sur 2 ans, donc pensé pour le temps long, pour t'aider à passer un cap dans ton aventure entrepreneuriale et ton business freelance, mais pas seulement sur le business. Notre pédagogie, elle repose sur 3 piliers. Le business, bien sûr, nous sommes des entrepreneurs et on veut développer nos entreprises. Le développement personnel, ce qu'on préfère appeler nous l'épanouissement individuel, parce que dev perso, c'est un terme qui a une connotation de moins en moins sexy. Donc tout le travail sur toi, la personne, être épanoui dans ton travail. Et le 3e pilier, c'est ce qu'on appelle la pensée systémique. C'est entrevoir le business en prenant en compte des sujets sociétaux hyper importants, comme l'écologie, le féminisme, la justice sociale, etc., etc. Cette liste est longue. Et donc, ce qu'on accompagne les gens à faire dans le programme Surf, c'est avancer dans leur processus et leurs projets entrepreneuriaux sans sacrifier leur épanouissement individuel et en prenant en compte les enjeux les plus importants de notre civilisation humaine. Si tu penses que ça peut te correspondre et que tu veux faire partie d'un groupe de gens qui te ressemblent pour un accompagnement sur le long terme avec 2 coachs à tes côtés, peut-être que le programme Surf est fait pour toi. Pour le savoir, je t'invite à te rendre sur surfenfreelance.com. Je répète, surfenfreelance.com, et tu peux prendre un appel avec nous et notre équipe pour en savoir un peu plus. Les portes sont ouvertes en ce moment. J'espère avoir l'honneur de te compter parmi les membres du groupe de cette année. Et sur ce, bonne écoute de l'épisode. Salut à toi et bienvenue sur Young, Wild and Freelance, le podcast pour ta vie d'indépendant. Je m'appelle Thomas Burbidge et chaque semaine, je t'accompagne dans ta merveilleuse aventure indépendante avec du contenu et des expériences pédagogiques pour te faire progresser. Cette semaine, j'ai eu le grand plaisir d'accueillir Julie Siegel sur le podcast, que tu connais peut-être via son propre podcast Être Soi, ou alors son pseudo Kinoko. Elle nous révèle d'ailleurs dans cette interview ce que ça veut dire Kinoko. Et si tu connais pas Julie, elle s'est lancée dans l'aventure indépendante après un burn-out pendant son premier CDI, et elle est devenue à ce jour social media manager en freelance. Mais depuis là, depuis ce moment-là, son business a énormément évolué. Au fil du temps et de ses explorations sur les nombreux sujets qui la passionnent, notamment le développement personnel, son business a pris plein de formes différentes, avec de la formation, de l'accompagnement, de plus en plus de contenu, et notamment un passage focus à 100% sur les sujets autour de la création de podcasts. Aujourd'hui, finalement, elle se recentre de plus en plus sur cette notion d'être soi. Bref, elle a vécu de nombreux pivots, comme on les appellerait dans le milieu startup, et elle a beaucoup d'histoires à raconter à ce sujet. Mais vous vous en doutez, ces différents changements de forme dans son business ne sont finalement pas anodins. Ce n'était pas des hasards complets à tester des choses complètement au hasard. Au contraire, à chaque pas, Julie a suivi cette logique du être soi. Et c'est ce dont on parle dans cet épisode. Pendant notre discussion, on suit donc le fil de toutes les évolutions du business de Julie, autant sur le plan de ses envies, de ses intérêts, de ses apprentissages, mais aussi selon les évolutions de sa vie de famille, et notamment quand elle est devenue maman. Et ensemble, on décortique toutes les réflexions importantes à mener qui nous permettent, nous indépendants, de réinventer notre business à l'image de nous-mêmes, ou comme elle le dirait, à l'image de soi. Bref, j'espère que cet épisode te plaira et je te laisse te plonger de ce pas dans notre échange. Et tous les deux, on se retrouve à la fin. Bonne écoute. Bienvenue sur le podcast, Julie.
Merci de m'accueillir.
Je suis trop content. On a passé un petit temps à discuter ensemble pour faire mieux connaissance parce que c'est une des premières fois qu'on discute comme ça, même si on se suit tous les deux. Moi, ça fait longtemps que je te connais, que je suis ce que tu fais. Et d'ailleurs, vers les tout débuts de ce podcast, tu faisais partie des personnes que j'avais identifiées en me disant « Tiens, ce serait trop bien d'avoir une discussion avec Julie ». Donc, c'était longuement Merci. Attendu. On est à la saison 4 et t'es enfin là.
C'est trop drôle. Merci beaucoup.
Avec grand plaisir. On va rentrer directement dans le vif du sujet avec la première question rituelle. Comment et surtout, pourquoi est-ce que t'es devenue indépendante ?
Ça faisait longtemps que je voulais être indépendante et ouvrir mon business. Je pense qu'il m'a fallu aller dans le mur pour comprendre ça, de faire mon CDI, d'avoir mon burn-out, de partir et de me dire « bon, ben maintenant, tu fais quoi ?» Et le pourquoi, c'était ça, c'était la raison. C'était qu'en fait, j'avais juste pas envie de souffrir au travail et que j'avais envie de faire un truc qui me fasse plaisir et d'avoir une vie qui me plaise. Donc, c'était ça. Donc, je pense que je suis aussi dans une famille où j'ai eu des parents qui étaient entrepreneurs. Donc, en fait, au final, j'ai toujours été dedans. Mais vraiment, je savais au fond de moi que je le ferais un jour. Je savais pas comment, quelle forme ça allait prendre, mais je le savais, en fait. Et c'est devenu réalité il y a 4 ans et demi maintenant.
Ouais. Du coup, c'est vraiment ce gros coup que t'as pris sur la tête en faisant un burn-out, c'est ça ?
Ouais, en fait, j'ai fait un parcours un peu classique je vais faire mon bac, ensuite je vais aller faire une licence parce que j'ai des rêves de devenir prof de japonais, le truc super loin de ce que je fais maintenant. D'ailleurs, j'ai pas répondu à la question, mais ça va peut-être pouvoir te permettre d'où vient le nom Kinoko, parce que c'est un mot japonais qui veut dire champignon. Et en fait, c'était un pseudo que j'avais sur des forums et des jeux vidéo. Et en fait, je déteste les champignons, mais j'adore le mot, je trouve que c'est très mignon. J'aimais beaucoup l'écrire. Et du coup, bah, ça m'a servi de pseudo et je me suis dit, bah, je vais le prendre et je vais l'utiliser. Trop drôle. Comme ça. Donc, ça vient de là.
Okay. Parce que je posais la question à Julie juste avant qu'on commence d'où ça vient, Kinoko. Donc, vous avez la réponse en live.
Voilà, c'est ça, exact. Et donc, je me destinais à ça. Après, je me suis dit, bon, bah, finalement, j'ai commencé à m'intéresser aux réseaux sociaux, à créer des contenus, aux cosmétiques asiatiques. Je me suis dit, bah, j'ai envie d'en parler avec des gens. Comment je fais? Bah, je vais regarder les moyens que j'ai à ma disposition. C'était il y a plus de 10 ans, je me sens super vieille de me dire, mais c'est ça. D'ouvrir un blog, de créer des réseaux sociaux, c'est comme ça que j'ai appris. Et je suis tombée en école de commerce, j'ai fait un commerce digital. Je dis toujours que j'ai payé mon droit d'avoir mon diplôme et de travailler, parce que clairement, c'est toujours mon sentiment aujourd'hui. Et comme tout bon parcours, t'arrives à ton CDI, tu te dis, waouh, c'est trop cool, t'es dans une super boîte. Le truc tout tracé, tu sais, tu te dis, c'est la phase finale du game. Ouais. Et là, t'arrives dans un truc où, mais la débandade, hein, clairement. Et j'ai tenu 8 mois dans une boîte où tout le monde partait, où j'avais un patron mégalo, et ça m'a vraiment, je dirais pas détruite, mais ça m'a fait beaucoup de mal. Et du coup, ben, c'est ça qui m'a poussée, en fait. J'avais deux choix, soit rester dans un truc où j'étais mal, soit partir, quoi.
Et t'as pris combien de temps, du coup, dans cette phase où tu sors de cette boîte avant de retrouver, parce que tu sais, j'imagine que quand tu vis des trucs aussi lourds et pesants, j'ai la chance de l'avoir jamais vécu, mais je sais qu'il y a des gens dans mon entourage ou qui me suivent qui ont vécu un truc similaire. Il se passe quoi dans cette phase d'entre-deux où tu sors de là et qu'est-ce qui a fait que t'as re-eu l'énergie d'aller faire un truc qui est apparemment plus risqué, de se dire je me lance toute seule, quoi?
Je rigole d'avance parce qu'en fait, moi, j'ai pas attendu.
Ah oui.
D'ailleurs, c'était une bénédiction et en même temps, je me dis, j'aurais fait autrement. J'aurais peut-être profité différemment. C'est-à-dire que ce qui s'est passé, c'est que j'ai mis du temps à réaliser que j'étais malheureuse dans mon travail. Même les autres le voyaient, mais j'étais dans un tel déni. D'ailleurs, c'est un processus que j'ai sur d'autres choses et c'est important de le voir. Et à un moment donné, j'ai eu un rendez-vous avec une RH et je dis toujours que c'est la meilleure chose que cette boîte ait fait pour moi, parce qu'en fait, on a vraiment discuté et j'ai fondu en larmes. J'étais trop mal, en fait. J'ai réalisé sur ce moment-là que c'était le fameux, tu sais, on dit souvent les grands moments ou les moments de révélation ou les moments où tu comprends. Bah, ça a été un de ces moments-là. vraiment un moment clé. Ouais. Et à partir de ce moment-là, en fait, moi, il me suffit juste de ça pour décider d'autre chose. Donc, j'étais déjà dans la boîte, que j'avais déjà décidé que j'étais plus dedans, et j'étais déjà en train de travailler à ce que j'allais faire. Donc, il a fallu, je crois qu'il y a eu un mois et demi entre ce moment-là et où je suis vraiment partie. Pendant ce moment-là, qu'est-ce qui s'est passé? J'avais décidé que j'allais ouvrir ma boîte, que j'allais devenir freelance. J'ai trouvé mon premier client. J'ai même pris un jour de congé pour aller le voir et, en gros, que la promesse de travailler ensemble se finalise. Et le jour où je suis partie, le lendemain, je commençais déjà à travailler en freelance.
Ah ouais. Du coup, c'était genre rebond direct, quoi.
clairement rebond direct. Je conseille pas forcément. Alors, je pense que...
Pourquoi tu disais que tu ferais autrement?
Parce que ça a été... Alors, je pense que j'aurais fait autrement dans le sens où j'aurais peut-être célébré un peu le fait que, ça y est, j'avais le droit de lancer une autre chose. Célébrer, tu vois, le côté... Ouais, c'est super de lancer sa boîte. En fait, là, j'ai pas vraiment pris de pause. Et c'est que depuis cette année où je comprends l'intérêt. Donc, tu vois, ça fait un moment de vraiment se poser et de se ressourcer et d'apprendre à être productif dans les temps de pause et de célébration.
Ouais, grave. C'est un truc que je partage pas mal avec... on va entendre des petits bruitages de ton côté.
Ouais, c'est bah...
Les gens captent l'ambiance dans laquelle t'es. Mais ouais, j'allais dire, il y a un truc que j'aime bien partager avec les indépendants que j'accompagne, et j'en ai sûrement déjà parlé sur le podcast, c'est... On a l'impression que quand t'es à ton compte, et c'est souvent le message qu'on peut voir du hustle, genre bosser... Et on se dit que on doit être tout le temps là-dedans. Et finalement, j'ai l'impression que il vaut mieux avoir un temps par phase de, moi, je parle souvent en quatre phases, plan, action, bilan, célébration, et on revient au plan. Et d'avoir, du coup, ces autres phases de, ouais, on prend le temps, en fait. On prend le temps de planifier les choses, ensuite de passer à l'action, ensuite de faire un bilan, qu'est-ce qui s'est passé, et la célébration dont tu parles, qui, à mon sens, est hyper importante. Pour aussi se rendre compte de tout ce qu'on a fait. Parce que souvent, on avance et on se rend pas compte que, putain, en fait, on a créé plein de choses et si on prend pas le temps de le regarder, on peut être frustré et toujours courir, quoi.
Ouais, c'est exactement pour ça que, du coup, j'en suis là à pivoter pendant 50 ans parce que, du coup, t'as toujours l'impression que c'est pas assez, qu'il faut faire autre chose. Et je dirais, ouais, de faire des pauses et de vraiment presque... Là, c'est un truc que je vais faire prochainement, c'est noter tout ce que j'ai fait, tout ce que j'ai réalisé. Je pense que ça va m'aider à... Je vais le mettre dans un coin et je le regarderai pour me dire, ah bah, j'ai fait plein de trucs et je suis capable de faire plein d'autres choses. Et faire des pauses, voir.
Ouais.
C'est important.
Grave. Et du coup, ouais, j'en profite pour revenir sur ce que tu disais. À un moment donné, du coup, tu te lances dans cette activité d'indépendance, de freelance, du coup. Tu disais tout à l'heure quand on préparait que 8 mois, 9 mois après, tu savais, OK, en fait, c'était une phase et je veux passer à autre chose, qui est la forme qui donne ce qu'est ta boîte aujourd'hui et tout l'accompagnement que tu proposes et les formations que tu as construites depuis, etc. Et j'étais surpris parce que moi aussi, j'en suis un peu à ce stade de pivot, de arrêter les missions de freelance et de me concentrer à fond sur ça parce que je sens que c'est là où j'ai envie de contribuer. Et j'étais surpris que tu me dises, moi, ça fait 2 ans et demi que je pivote. Du coup, je pense que c'est hyper intéressant de voir que ouais, ça prend du temps. Tu parlais de phase de déni aussi. Tu peux nous parler un peu de peut-être l'impulsion première de quand tu passes de cette phase de je suis freelance à en fait non, c'est autre chose que je veux. C'est quoi qui se passait dans ta tête à ce moment-là?
Déjà, faut savoir que alors il y a un mot qu'on utilise beaucoup qui est multipassionné, etc. Que j'ai beaucoup utilisé aussi, qui est de dire voilà, j'aime beaucoup faire deux choses et du coup, si je n'exploite pas différentes pistes à la fois, je suis très frustrée. Et en fait, je me suis aperçue que faire uniquement de l'accompagnement social media, aider les clients, et j'étais, franchement, je peux le dire, j'étais vraiment bonne dans ce que je faisais, et je pense qu'encore aujourd'hui, je me sers de ça, tu vois, dans notre business. Mais au bout d'un moment, faire toujours la même chose, tu sais, c'est un peu comme si, je pense que tu dois rencontrer ça, t'as essoré le truc, t'as vraiment exploité le truc à fond, t'as vraiment fait, tu t'es fait plaisir, et maintenant tu te dis bah c'est cool, ça me fait plaisir, mais c'est plus aussi kiffant qu'au début, donc je sens qu'il y a d'autres choses que je pourrais explorer qui me feraient plaisir en fait dans mon business. Je sais pas si c'est quelque chose que tu rencontres en ce moment d'ailleurs.
Je sens effectivement, moi, la jauge que j'utilise, c'est mon énergie.
Mm.
Et du coup, quand je vois que de plus en plus, quand je travaille sur les missions clients, mon énergie, elle baisse. Et j'ai pas, tu vois, l'élan naturel de me dire trop bien, tu vois. Alors que quand je travaille plus sur des trucs de contenu, quand je sais que j'ai un coaching qui arrive, quand je suis en train de travailler sur améliorer une formation ou faire un événement comme mon séminaire que j'ai fait le week-end dernier, ben là, je sens mon énergie, elle monte hyper haut et j'ai un élan de ouf pour aller le faire. Et du coup, c'est ça la jauge que j'utilise pour me dire, OK, là, ton corps te dit où tu dois aller.
Mmh. Donc, c'est super
c'est un peu pareil que ce que tu dis.
Ouais, je pense que c'est très corporel et c'est aussi... En fait, que j'ai vraiment eu ce sentiment au bout d'un moment où je me sentais, c'était fatigant, ça me plaisait plus. Je le faisais parce qu'il fallait le faire et parce que ça rapportait de l'argent et parce que c'était facile et que ça avait été très simple pour moi de démarrer et que j'ai fait beaucoup d'argent très vite. Contrairement à tout ce qu'on dit, moi, la première année, j'ai presque fait 100 000 euros de chiffre d'affaires. On a acheté notre premier appart. On a dépensé des milliers d'euros dans notre tatouage. On a pu mettre plein de milliers d'euros de côté pour se marier. Enfin, je crois que c'est les mois où on a fait où je me payais entre 3 et 4 000 euros. Donc vraiment, c'était... Alors qu'il y en a plein qui disent « Ah, tu sais, quand tu commences, tu galères et tout. Hein. » C'est tu fais dans la soupe. J'ai pas rencontré ça, tu vois. Et c'est aussi ce qui a fait, je pense, le fait que j'ai pas réussi à pivoter de façon saine. Et ouais, vraiment. Et du coup, ça a été ce moment où je me suis dit « Bon, ça commence à me saouler. » Et le moment où c'était déjà décidé, mais que je le voyais pas, mon mari le voyait déjà parce qu'il avait commencé à m'aider dans ces missions-là. En fait, tu sais, ces moments où tu cherches des clients, où tu fais en sorte de continuer ton activité, parce que bon, t'es dans cet élan, donc faut quand même continuer. C'était mort, en fait, parce qu'en fait, comme tu parlais d'énergie, c'est
là, bloqué. Quoi, ouais.
Donc, au fond de toi, tu sais que c'est mort. Et que tu veux autre chose, donc il faut accepter qu'il faut passer à cette autre chose et aller chercher cette autre chose. Et c'est à cette période-là aussi où j'avais déjà commencé mon podcast et j'étais vraiment dans l'exploration, en fait, de raconter. Et j'étais déjà en train de creuser. Donc, je me suis dit, bon, on va faire autre chose. Et c'est là qu'a débuté toute cette phase d'exploration qui s'est terminée, je pense, cette année, à créer différentes offres, à créer différentes choses, à faire de l'accompagnement et... Je sais pas combien de choses j'ai fait, en fait.
Ben, pour le voir de l'extérieur, effectivement, parce que comme on disait tout à l'heure, on se regarde et on se suit de près et de loin. Et j'ai l'impression, effectivement, d'avoir vu plein de formes à ce que tu faisais évoluer. Et plus récemment, tu avais fait un pivot en disant « je me concentre que sur le podcast », etc. Là, j'ai l'impression que ça a évolué encore un peu. Du coup, c'était hyper intéressant de voir ça de loin, quoi. Je suis gentil.
Encore un peu. Pourquoi? Ouais, parce que tu dis encore un peu. Et moi, quand je regarde ce que j'ai fait. Enfin, je crois que là, le pivotement qu'on a fait, là, celui-là, c'est celui le plus inconfortable. Le plus inconfortable qu'on l'en ait fait. Parce que c'est prendre un risque. Mais tu sais, c'est le risque que tu comprends qui est le bon, qu'il va falloir patienter encore, qui est super excitant, mais ça te fout la frousse quand même. T'es là, qu'est-ce que je vais faire? T'es en panique. Mais ouais, beaucoup, beaucoup d'expérimentation là. En 2 ans et demi, trop.
Tu sentais ça aussi? Est-ce que tu sens que c'est ce truc-là de frousse et panique qui fait que t'as pas encore fini de prendre des missions freelance? Tu disais que vous en avez encore une ou deux. Est-ce que c'est ça, tu penses, qui fait que tu l'as pas lâché complètement encore?
Non, moi alors... Il y a eu plusieurs phases où faut savoir aussi que son business, enfin pour moi en tout cas, c'est ce qui se produit. Mon business, il a toujours une des choses qui est très importante pour moi et qui est aussi pour mon mari parce qu'on bosse ensemble, c'est que notre business soit au service de notre vie. En gros, c'était une des phrases qu'on dit souvent. Et quand je dis ça, c'est parce que au départ, on était deux, on avait des projets, on avait envie de s'acheter un appart, on avait de se marier. On a vraiment fait en sorte que ça se combine. Et en fait, on a toujours eu des projets de vie et une des choses que l'on souhaite et qui se produit, en fait, parce que finalement, quand je regarde mes journées, moi, ça m'arrive de travailler 4 heures dans la journée, quoi. Et notre objectif, c'est vraiment qu'on ait un business qui nous fasse plaisir, qu'on n'ait pas à être le cul sur une chaise comme je pouvais être en freelance derrière mon ordinateur et qu'on ait tout le temps besoin de moi, mais que j'ai un véritable impact, que j'aide les gens à faire des choses qui sont importantes pour eux et qu'ils puissent le faire à leur tour. Avec leur savoir-être et leur savoir-faire. Et ça, c'est vraiment une des grandes motivations qu'on a. ce qui m'a particulièrement bloqué, c'est, on parlait de déni, c'est en fait tout le côté égo, toutes les peurs, celles qui, par exemple, je pense, me bloquent encore un peu aujourd'hui, sur lesquelles je travaille, c'est plus la peur de manquer d'argent, qui, je pense, est là depuis très longtemps, et le fait que j'ai jamais été vraiment confrontée à un manque d'argent, sauf, tu vois, dans les deux dernières années, et d'ailleurs, je pense que je vais en parler progressivement, je pense que c'est ça qui fait que j'ai toujours eu l'impression d'être dans une certaine sécurité financière, alors qu'au fond, j'avais toujours des peurs tapies dans l'ombre auxquelles j'ai dû me confronter à la dure, en fait. Et c'est ça qui m'a vraiment, ouais, je pense, freiné beaucoup, beaucoup.
Hyper intéressant. Parce qu'il y a une phrase que, depuis un moment, j'ai une phrase écrite dans mon truc d'orga sur où je note toutes mes idées pour du contenu. Et j'ai jamais vraiment pris le temps. Je voulais poser une grosse vidéo dessus et tout. C'est les phrases que tu sors où y a plein de gens qui vont pas comprendre, tu sais, les trucs un peu clivants. Et cette phrase, c'est le fait que tu n'aies pas encore de clients et que tu ne gagnes pas encore d'argent, c'est une bénédiction. Et ce que j'entends derrière cette... Elle fait mal, cette phrase. Hein. Mais ce que j'entends derrière cette phrase, c'est le jour où tu as un business qui tourne et tu gagnes super bien ta vie et que tu te rends compte qu'en fait, tu as construit sur un truc qui, finalement, c'est pas exactement où tu as envie d'aller, c'est beaucoup plus dur de faire marche arrière et de sortir de ça pour repartir dans une nouvelle direction que de partir à la fraîche et vraiment te poser les bonnes questions au départ.
Ouais.
Et du coup, j'ai l'impression que c'est le travail que tu fais depuis quelques années, du coup, de revenir et repartir.
Ouais. En fait, j'ai pas l'impression de partir en arrière et de repartir en avant. C'est juste qu'en fait, donc j'ai commencé il y a 4 ans et quelques. On va dire, ça fait 2 ans. Ouais, je pense que ça fait 2 ans et demi, en fait, où j'ai eu des choses à un niveau personnel que, tu sais, dans la vie, en général, on se dit, ouais, le mode, j'y vais, go, je produis, c'est super valorisé. Et je pense que c'est quelque chose dans lequel je suis super forte et on est beaucoup à l'être, sauf que c'est à quel prix. Et je pense que le prix, ça a été, j'ai eu mon premier burn-out en CDI, j'étais dans ce mode-là, parce que c'est ce qu'on attendait de moi jusqu'à un certain stade où, en fait, c'est pas ma boîte et finalement, ça n'est jamais suffisant. Donc, ça ne va pas et je me suis rendu compte que ça n'allait pas. Le deuxième burn-out que j'ai fait, parce que moi, j'en ai fait 3 pour bien comprendre le truc. Hein. Moi, il me faut pas juste un, il m'en faut 50. Le deuxième, c'était à la fin de mon année en freelance. C'est sûr que faire de l'argent, j'ai quand même... Je pense pas que c'est de la... Je dis jamais que c'est de la chance, mais j'ai quand même travaillé pour. Et pareil, à quel prix ? J'ai beaucoup bossé, j'ai pas pris de vacances. J'étais irritable à certains moments. Je sais que j'étais horrible avec... avec Rémi, qui est mon mari, du coup, avec qui je bosse. Et quand je me regarde, je me dis, mais c'est... Enfin, franchement, j'ai pas aimé. Il y a des moments où j'ai pas aimé. Donc, à quoi bon ? Et donc, imagine, t'organises toute ta vie professionnelle, ton mariage, ton business, ton premier achat, tout ça. Donc, et c'est marrant parce que par rapport à ce qu'on parle, je viens de voir à l'horizon ce qui est en train de m'arriver en ce moment. Il va falloir que je fasse gaffe. Deuxième burn-out. Et le troisième, ça a été cette année. En début d'année, parce que je suis devenue maman il y a un an, un peu plus d'un an maintenant, et va gérer un business où tu es encore en train de faire tu gères encore des clients freelance. Dans ta vie, t'as envie d'avoir un business qui te fasse 100% plaisir, mais ça demande beaucoup d'énergie, de tester des offres, tester un positionnement, créer du contenu autour de ça. Tout ça, c'est énormément de travail. T'as la grossesse par-dessus, j'apprends 2 mois avant d'accoucher que je vais être hospitalisée et que j'en fais trop, je commence à... Vraiment, j'ai déconné, donc... Bref, à prendre des avions, à aller prendre des trains, faire... Enfin, n'importe quoi. Je deviens maman, je me prends une grosse claque dans la gueule parce que du coup, devenir parent, c'est dur.
Ouais.
C'est dur. Et comme je pense que j'ai la peau dure ou le cuir bien dur, bah, il m'a fallu encore 6 mois pour comprendre que, pour la parenthèse, quand on devient mère, il y a le cerveau qui change pendant 2 ans, il y a vraiment des transformations physiologiques autres que physiques. Et du coup, en début d'année, c'est aussi une thérapie d'avoir un gosse. Donc, tu t'en prends plein, tu t'en prends tout dans la gueule et toutes tes peurs, ça fait un effet miroir. Ton business fait un effet miroir, tes clients te font un effet miroir, ton gosse te fait un effet miroir. Donc, à un moment donné, c'est soit tu acceptes, en fait, de voir les choses. Et ce que je dis dans mon business, c'est que souvent, on oublie que c'est nous qui sommes le pilier de notre business et que si on va pas bien, toutes les stratégies de la terre, ça sert à rien en fait. Et c'est ce que moi j'ai fait jusque là. Tu vas chercher la formation, tu vas chercher le truc, tu vas chercher la technique. Tout le monde a l'air de dire que ça fonctionne. Mais si dans ta tête, t'es pas bien, si t'as des peurs, si t'as des doutes, si t'as des trucs, et on en a tous. Ouais. Moi, j'ai passé beaucoup d'années à ne pas vouloir les voir, à être dans la fuite de mes émotions. Et je pense que c'est ça qui m'a fait perdre, entre autres, du temps.
C'est clair. Tellement, tellement aligné avec ce que tu dis. Il y a deux choses qui me viennent en rapport à ça. La première, c'est... j'ai l'impression que beaucoup de personnes cherchent l'équilibre pro-perso ou à bien séparer la vie pro-perso, tu vois. Et moi, à chaque fois que j'entends ça, il y a une part de moi qui se dit, mais en fait, c'est un non-sens, surtout quand on est indépendant, parce que, genre, on est un seul être humain et juste, il se trouve qu'une partie de ce que cet être humain fait dans son quotidien, c'est avoir une entreprise à soi et travailler avec des clients et produire des choses. Et du coup, essayer de séparer les deux, à mon sens, c'est genre, tu peux pas séparer ton être humain en deux, quoi, et juste prendre une moitié et lui dire, bah, lui, il va être là de 8h à 18h. Et ensuite, c'est l'autre qui va rentrer en jeu, quoi.
Ouais, ouais.
Et ça m'emmène à une des convictions, hein, de tout ce que j'essaie de mettre en place. Et c'est un des messages forts que j'ai envie de communiquer, c'est, en fait, progresser dans ton activité, surtout quand t'es indépendant, ça équivaut à progresser sur l'ensemble de tes domaines de vie. Parce qu'ils ont tous un impact sur ton business. Ta santé en étant un, si tu prends pas soin de ta santé, ton business, il peut se casser la gueule du jour au lendemain. Et au contraire, si tu progresses sur ta santé, bah, t'as des idées plus fraîches, t'as plus d'énergie, t'as plus de longévité, donc tu peux avoir plus d'impact sur le long terme. Enfin bref, je te passe des exemples, j'imagine que tu t'arrives à faire les liens. Donc, du coup, c'est hyper intéressant que tu racontes ça parce que t'as vécu le truc où il y a un domaine de vie qui commence à lâcher, puis un autre, et du coup, bah, forcément, t'es moins là pour ton business, quoi.
C'est inconfortable c'est difficile de... Alors, c'est inconfortable, c'est difficile d'avoir un business, mais ça n'a pas à l'être. Ça ne veut pas forcément dire que ce sera tout le temps le cas. Et c'est intéressant que tu dises ça, parce que je pense que les gens aussi nous demandent souvent comment vous faites pour pour trouver cet équilibre dans votre couple, dans votre vie de famille, dans votre business et tout. Et peut-être qu'à un moment donné, j'en ai parlé. D'ailleurs, parenthèse, il est possible que, et ça, c'est un truc très important à noter, vous pouvez être en désaccord avec ce que vous avez dit il y a 3 ans. Moi, c'est fort possible qu'il y ait des épisodes de podcast où j'ai dit « c'est bien d'avoir un équilibre pro-perso ». Maintenant, je dis de la merde. J'ai dit ça parce que c'était ma conviction de l'époque, mais maintenant, pas du tout.
Ouais, on change.
Ah oui, totalement. Il faut accepter ça parce qu'on n'est pas figé dans le... On n'est pas figé, c'est pas gravé dans le marbre. Et d'ailleurs, ça, c'est un truc très important pour pouvoir progresser et avancer. On ne se met pas dans des petites boîtes, sinon on laisse tomber. Et
c'est clair.
Ce que je voulais te partager par rapport à ce que tu disais, c'est que les gens, je pense, confondent l'équilibre entre la vie professionnelle et personnelle et les limites. C'est-à-dire que pour moi, avoir un équilibre, c'est une charge mentale supplémentaire de savoir comment je vais faire pour avoir... au bout d'un moment, il y a des priorités, tu vois. Il y a des priorités, des limites à poser. Par exemple, là, on est en train d'enregistrer un épisode de podcast. Un des choix de vie qu'on a fait, c'est de garder notre fille avec nous. En plus, bon, là, avec au moment où on enregistre, on est dans un contexte où je bénis le ciel qu'on ait eu cette décision et que c'était une envie profonde depuis très longtemps. Est-ce que ça veut dire que je vais autoriser ma fille à venir en mode « vas-y, on mêle tout » et non, on trouve des moyens de faire en sorte de poser des limites et de faire ça dans de bonnes conditions, dans les meilleures conditions et de mieux qu'on peut. Mais on peut avoir les deux. Et perso, moi, mon but, c'est travailler moins, travailler mieux, mais gagner plus d'argent et pas m'oublier, parce que je sais quel effet ça a eu sur moi, sur mes proches, sur mon business. Et c'est pas le but, en fait. Je suis super motivée de transmettre une autre façon de faire, que ce soit dans nos contenus gratuits ou dans nos contenus payants, parce que on a tellement cette image qu'il faut que ce soit des heures devant son ordi, à ne pas manger, à ne pas boire, à ne pas sortir, et que c'est comme ça qu'on va faire plein d'argent. Et je peux comprendre parce que c'est un des modèles que j'ai suivi qui m'a permis de gagner beaucoup d'argent au début. Mais finalement, je m'aperçois que les moments dans les lancements qu'on a fait là cette année sur plein d'offres différentes, la fois où on a fait, je crois que c'était en avril-mai de cette année, où c'était l'explosion du Covid-19, où tout le monde était en PLS en train de se dire comment on va faire pour notre business. C'est là où on a fait notre plus gros mois de chiffre d'affaires. Et en fait, je me souviens que on a lancé une petite formation de podcast et on était en train de se balader ou alors ne rien faire et l'argent venait quand même, tu vois.
Ouais.
On en revient toujours à soi. à soi. C'est tout.
Point.
C'est pas en gros.
Ouais, une question clair. Que je me suis posée en ce début de semaine par rapport à ce sujet. C'est marrant d'ailleurs, je pensais pas qu'on discuterait de tout ça là, mais finalement c'est hyper, ça va avec mes réflexions de la semaine, donc c'est trop cool. C'était, et si au lieu de valoriser le hustle, le fait de travailler autant, et si ce que la société valorisait, c'était justement le fait de travailler le moins possible. Je me suis demandé à quoi ça ressemblerait tout cet écosystème de tous les contenus. Enfin voilà, je me suis dit à quoi ressemblerait le monde si ce que les gens valorisaient c'était de travailler le moins possible et d'être ultra équilibré dans tous ces domaines de vie.
C'est intéressant.
Ça serait intéressant, non?
Ouais, mais je pense que faut aussi se dire, et j'ai regardé, pareil, on va partager nos trucs du moment. Moi, j'ai regardé un truc qui aurait pu me faire hyper déprimer, et j'avoue que quand je l'ai regardé, je sais pas si tu l'as vu, c'est le dernier documentaire sur Netflix, sur les réseaux sociaux, j'ai plus le titre.
Ah, j'ai trop hâte de le voir.
Je l'ai vu, et je vais pas spoiler, vous inquiétez pas, je vous raconte pas ce qu'il y a dedans. Je dis juste un petit warning, et c'est en lien avec ce qu'on est en train de discuter, c'est que, moi, j'aurais peut-être dû le regarder à un moment où j'étais un petit peu plus motivée parce que c'est un peu déprimant. Ouais, c'est... Alors, en fait, comme tout documentaire, tu sais, t'as toujours des phases où ils te donnent des solutions, ils t'établissent les faits et tout. Et ce qui était super intéressant, et comme tout, en fait, tu t'aperçois qu'on est la société. C'est l'être humain qui choisit d'utiliser les outils qu'il a à sa disposition. Et peu importe les outils, ça peut être ton business, la façon dont tu travailles, les réseaux sociaux... Et que c'est nous qui sommes derrière tout ça. C'est marrant parce qu'à chaque fois que je fais une interview, à chaque fois, je reviens toujours. Et c'est pour ça que petite dédicace à Julia qui me disait, mais oui, il y a être soi dans tout ce que tu fais. Et c'est exactement ça. C'est plus fort que moi. C'est tout le temps, en fait, nous qui sommes les pilotes. Et on a le choix de choisir, avec Charlie qui est d'accord derrière en train de me dire yes, si vous l'entendez.
Oui.
On a toujours le choix de choisir comment on veut piloter notre business, notre vie et tout. Et il est temps de montrer qu'on peut le faire et justement de parler de ça parce que plus on aura des modèles ou des personnes qui montreront que c'est possible de faire différemment, qui seront vraiment transparents et honnêtes dans tous les sens du terme, c'est-à-dire quand c'est la merde et quand c'est bien, parce qu'on voit beaucoup trop le quand c'est bien que quand c'est la merde, on inspirera beaucoup plus de personnes à faire ça, à travailler moins, plus, j'aime pas dire plus intelligemment, mais de façon plus... simple, de façon plus construite peut-être, de prioritairement faire certaines choses. Si c'est possible pour quelqu'un, ça l'est forcément possible pour vous qui écoutez, d'une autre manière, mais plus on aura d'exemples comme ça, et c'est important de le faire, plus on pourra montrer que c'est possible.
Ouais, c'est clair. Et trouver aussi où est-ce que ça se rencontre entre ce qu'on a envie de construire, nos ambitions, le fait de pas vouloir tout de suite... Et c'est quoi la manière de faire ça au quotidien, pas par pas, et avancer sur le chemin, quoi. Parce que je pense ça dépend aussi énormément de cette variable de c'est quoi ma vision de ce que j'ai envie de construire et qu'est-ce que ça me demande pour construire ça.
Je m'aperçois qu'il faut beaucoup de patience.
Connaissance
aussi.
De soi.
Oui.
Beaucoup de patience.
Il faut beaucoup de patience, beaucoup de patience avec soi-même et avec ce que l'on fait. Parce que tu vois, tu disais de vouloir tout de suite, mais moi, perso, je suis une grande impatiente et quand je veux quelque chose, je vais tout faire pour l'avoir. Et c'est ça qui fait aussi que ça génère une grande frustration, de grandes attentes et tu te dis, oui, mais j'ai créé ça. Tu te fais tellement un monde dans ta tête, tu te dis, ouais, elle est géniale cette idée, ça va être trop cool, j'ai tout étudié le marché, j'ai tout étudié le truc, c'est obligé que ça fonctionne. Tu le lances et là, ça marche pas. Ton truc, il fait un flop total ou alors ça... Le pire, et c'est ça qui m'arrive régulièrement, c'est tu fais des ventes, tu vois, et tu dis, ouais, mais c'est pas assez. C'est pas assez parce que je me suis mis... Et tu vois, moi, c'est par rapport à l'argent, mais ça peut être par rapport au nombre de personnes ou au retour que t'as. Et tu te dis, oui, mais non, c'est pas suffisant, il faut que je fasse mieux. Et en fait, t'apprécies jamais vraiment ce que tu fais. Et c'est terrible parce que tu te rends compte que t'es tout le temps, tu retournes dans ce truc de, allez, faut produire, faut faire, parce que faut que ce soit mieux. Et... Ouais, je comprends pourquoi on m'a envoyé un mail il n'y a pas longtemps, je l'ai publié aujourd'hui en disant je suis pas assez névrosée, mais en fait peut-être que j'ai un comportement ou j'avais un comportement un peu névrosé de vouloir tout le temps faire plus. Ouais, faut avoir ce recul aussi, prendre le temps d'avoir ce recul sur toi.
Juste hier soir, j'avais une espèce d'inspiration spontanée pour un post Insta. Je me suis posé en mode je devais faire ma ligne édito pour la semaine. Et j'ai écrit un truc hier sur cette espèce de tension entre ton ambition future, genre tous les gros trucs que tu as envie de construire et que tu as envie de faire, genre maintenant, tu vois, tu as envie d'y être, et ce message de profiter du moment présent, qui sont deux grands messages à la fois de l'écosystème entrepreneurial et de l'écosystème plus dev perso. Mm. Et du coup, je me disais, il y a une énorme tension entre ces trucs. Genre, rêve grand et une grosse ambition et une énorme vision qui t'inspire et te donne envie d'avancer et après laquelle tu peux te retrouver à courir tout le temps. Et en même temps, ce qui compte, c'est le moment présent. Le reste, ça n'existe pas. Le futur, on ne sait pas. Ça se trouve... tu sors, tu te fais écraser par un bus, tu vois.
Super positif, j'avoue, c'est vrai.
Mais ça se trouve, on ne sait pas, tu vois, ça se trouve, Covid éradique tout le monde, on ne sait pas.
Scénario zombie, merci.
Grave. Mais juste, il y a une énorme tension entre ces trucs, du coup. Et du coup, c'était un peu sur, finalement, comment on résout cette tension. Et ma vision du truc, c'est de me dire, en fait... notre ambition et ce qu'on va ressentir avec ça et l'impact qu'on a, c'est déjà un truc qui est en nous. Et faut se reconnecter à, OK, c'est là, j'ai le temps de le créer. J'ai encore, tu vois, genre, moi, au moment où on enregistre ce podcast, j'ai 26 ans, genre, j'ai encore 60 ans à faire des projets. Et si je mets à l'échelle de 60 ans ce que j'ai déjà fait en 4-5, je me dis, putain, ça va, tu vois. C'est, je sais même pas où je serai dans tout ce temps. Ça se trouve, j'aurais changé de vie complètement.
Mais oui.
Et en même temps, ce truc de le moment présent et profiter du moment présent, pour moi, c'est aussi profiter de, genre, les soirs où je travaille tard, prendre du plaisir là-dedans et pas se flageller en disant, putain, je travaille tard, fais chier, je devrais pas. Et tu vois, genre, essayer d'inverser un peu les deux. Le moment présent dans l'ambition et l'ambition dans le moment présent. Enfin, voilà, c'est une réflexion ouverte. Il n'y a pas vraiment de destination, mais.
Non, mais c'est très intéressant parce que, une des choses qui, je pense, fait que j'ai toujours... Bon, il y a toujours ce côté psychologique. D'ailleurs, un des conseils que je peux avoir, c'est si vous sentez que vous êtes coincé ou qu'il y a quelque chose, s'il vous plaît, allez en thérapie. Allez voir un psy ou une psy. Je pense que c'est un des trucs que personne... D'ailleurs, s'il vous plaît, parlez plus de ça aussi, parce que des fois, j'ai l'impression, pas pour faire égocentrique, mais j'entends pas beaucoup de Français ou de Françaises entrepreneurs parler de ça suffisamment. Beaucoup des méthodes et tout, des façons de faire, mais oui, aller en thérapie, ça peut aider votre business et votre vie à tous les points de vue. Donc ça, c'était une parenthèse, parce que moi perso, j'y suis encore. Et est-ce que ça veut dire que mon business c'est de la merde et ma vie aussi? Pas du tout, mais ça aide énormément, donc faut vraiment être ouvert à ça. Et c'est marrant ce que tu dis, parce que le côté moment présent et ambition, c'est pour moi des injonctions, en fait. C'est tout le temps faites ci, faites ça, faites ça, faites ça. Et en fait, j'ai l'impression que on propose jamais aux gens de penser par eux-mêmes, tu vois. Qu'est-ce que t'as envie? Qu'est-ce qui te satisfait maintenant? Qu'est-ce que t'as envie de faire, en fait? Et est-ce que c'est, par exemple, nous, il y a des moments où on a la tête dans le guidon, on produit rien, et est-ce que c'est mieux de continuer parce qu'on a décidé que ce serait comme ça? Parce que souvent c'est nous-mêmes, on se met des, tu vois, j'imagine que dans ta journée tu te mets aussi des plages horaires, tu te dis voilà, je vais faire comme ci, comme ça, je vais dédier ce temps à faire ci, ma matinée c'est ça, mon après-midi, et probablement que ça fonctionne très bien, tu vois. Je dis ça parce que je suis passée par là aussi. Maintenant j'ai une organisation différente. Comment?
Je disais pardon, jusqu'au moment où t'arrives dans ta plage horaire.
Alors moi, ça a été jusqu'au moment où, parce que j'ai une enfant, et aussi parce que j'ai explosé en plein vol de mes propres systèmes d'organisation qui me rendaient complètement dingo. Je vivais pour créer et pour suivre ce que j'avais moi-même construit. D'ailleurs, petite anecdote, c'est un peu ce qui se passe dans le documentaire. Je suis en train de faire la promo du documentaire. Bref, j'arrête d'en parler.
Tu le vends très bien.
Ouais. Non, mais je suis très forte pour vendre des trucs que c'est pas moi qui récolte les lauriers, mais bon, c'est pas grave. Le truc, c'est que qu'est-ce qui te fait plaisir, tu vois? Nous, quand on sent qu'on ça va pas, on se casse, en fait. Il y a des moments où on va prendre toute la journée et on va aller se balader parce que c'est juste ce qu'on a envie de faire. Et on avait prévu peut-être, je sais pas, de faire 4 heures de boulot, d'abattre des trucs énormes et tout ça. Peut-être que même c'est hyper nécessaire parce que le lendemain on doit livrer quelque chose. Qu'est-ce qui est vraiment très sain, tu vois? Et souvent, j'ai l'impression qu'on est vraiment prisonnier de nos propres méthodes, nos propres systèmes, et on n'est pas satisfait. Ça nous fait pas plaisir, mais faut le faire. Et on est tout le temps dans il faut, je dois, blablabla, blablabla. On vient le renforcer. Sauf que comme tu l'as dit, à l'échelle de la vie qu'on a, de notre business, c'est quoi une journée où tu vas dire stop, où tu vas reporter une livraison d'un truc, où tu vas dire bah non finalement ben désolé mais ce sera la semaine prochaine. Et ça, on l'a beaucoup plus expérimenté cette année, et je sais que c'est ce qui m'a fait énormément de mal. Pour l'anecdote, j'avais créé une formation qui se destinait aux freelances il y a 2 ans maintenant, pour les aider à gérer leurs finances et tout. En soi, c'était un super truc, tu vois, mais j'ai eu tellement de mal à la délivrer parce que je me mettais énormément de choses. J'étais enceinte, et au moment où je devais le livrer, j'ai appris le jour même, et j'avais pas terminé, que j'allais être hospitalisée. Ça m'a dévastée parce que ma première pensée, ça a été oui, mais comment je vais faire pour créer, pour livrer les trucs à mes clients, s'il te plaît. J'étais même pas là en train de me dire ma fille, est-ce qu'elle va bien, ou comment je vais faire pour supporter l'hôpital et tout. J'étais inquiète pour mes clients qui, je suis sûre, en soi, ne pensaient même pas à ça. Et j'ai envoyé un mail après des longues discussions avec mon conjoint qui était là, oui, mais c'est pas grave, tu peux toujours reporter. J'ai mon chat qui adore. Ah non, mais là, on est sur un moment où on a le bébé et le chat, donc c'est la totale. J'ai envoyé un mail à ces fameuses clientes qui devaient attendre ma formation, et je leur ai dit, je suis désolée, je peux pas livrer ça maintenant. Voici ce qui se passe. Comme d'habitude, tu vois, je raconte, mais ça m'a coûté de dire ça. J'étais là, j'avais fait une promesse, tu vois, et du coup, elles m'ont dit, c'est pas grave. Franchement, j'espère que ça va. Elles étaient plus inquiètes pour moi, quoi, que moi j'étais inquiète pour moi, quoi. Ouais. Et c'est là où tu réalises, ah, il y a comme un petit problème.
Ouais, tu vois le truc ? Hyper intéressant. Ouais, grave, grave. Hyper intéressant. J'ai l'impression qu'un des trucs, pour revenir sur ce que tu disais sur l'organisation, que j'ai trouvé super intéressant, j'ai l'impression qu'un des trucs qui cause ce genre de situation, c'est notre tendance. Alors, je sais pas si c'est une tendance humaine, ou si c'est, je sais pas, un truc construit qu'on a les entrepreneurs, mais j'ai l'impression que ça vient d'un truc où on est sous l'illusion que on peut arriver à un endroit, et une fois qu'on est arrivé, c'est bon, c'est fait. Notamment sur le sujet de l'organisation, je vois ça tout le temps. Deux, ça y est, j'ai le système, ça fonctionne, ou ça y est, c'est cette méthode qui me va et ça va pour toujours, tu vois. Et finalement, j'ai l'impression que quand on se met dans cet état d'esprit, ça devient ultra douloureux quand on se rend compte que finalement, en ce moment, parce que c'est changeant en plus, en ce moment, ça me fait pas du bien. En ce moment, j'ai peut-être besoin d'autre chose. Alors que pour moi, du coup, la vision que je développe depuis que je réfléchis beaucoup à ça, c'est en fait, c'est des itérations. Et ça se trouve, je vais changer 50 fois de méthode d'organisation, peut-être même revenir à celle que j'avais il y a 2 ans, mais qu'elle sera parfaite sur le moment présent. Et ça fait partie du chemin de juste changer tout le temps, parce que tu changes en tant que personne et t'as plein de trucs, et c'est pas revenir en arrière comme tu disais tout à l'heure, tu l'as très bien dit d'ailleurs, on est juste en transformation constante, et il y a des trucs qui nous accompagnent mieux à de certains moments que d'autres. Et je pense que du coup un vrai travail à faire, c'est faire le deuil de cette aspiration de se dire j'arrive à un stade où ça y est, c'est bon, c'est fait, j'ai tout, et on va constamment changer, quoi. Et du coup, faut qu'on fasse le... Ceux qui écoutent, faites le deuil, vous n'arriverez jamais à ce stade-là, quoi.
Vous y arriverez, mais vous allez... c'est comme la métaphore d'aller avec le courant de ce qui se passe et de tout le temps lutter pour faire en sorte que ton modèle, il reste, parce que t'as décidé, t'as bossé dur, donc merde, il va rester le truc. Ça fonctionnait, donc... Et en plus, le pire, c'est que c'est des choses, et quand on est dans le domaine de l'accompagnement, de la formation, sur les domaines et sur les compétences que l'on a, c'est que d'un point de vue égo, c'est mon Dieu, mais j'ai enseigné ça à tout le monde. Qui je suis pour 2 ans après dire, en fait, ça, je dis, en gros, ça, c'est de la merde. Non, c'est pas ça, mais en gros, ça, non, ça fonctionne pas, donc maintenant, je fais autrement. Donc, il y a aussi ce côté où t'as vendu le truc et t'as formé les gens à cette méthode et tu sais que ça fonctionne, mais maintenant tu dis tout le contraire en mode non, pas du tout, c'est pas du tout ça que j'ai envie de faire aujourd'hui. Donc t'as aussi ce côté présentation et ce côté avec toi-même, et c'est terrible, hein. C'est terrible.
Ouais, c'est hyper intéressant. Ben, je pense, tu vois, ça c'est grave intéressant de s'autoriser aussi à changer là-dedans, parce que j'imagine, on revient sur ce truc de si t'as des clients et un truc qui marche super bien, t'es presque prisonnier de ta cage dorée. Ça peut aussi le faire sur tes convictions, quoi. Genre, imaginons effectivement, on enseigne des choses dans nos programmes, dans nos formations, etc. Quand t'es formateur, même quand t'es freelance d'ailleurs, t'as une truc et tu le fais pour tes clients, genre une méthode que t'appliques et tu te dis c'est ça la technique ou la méthode, et d'ici 3 ans tu te rends compte, en fait, à l'époque, c'était la méthode parfaite pour où j'en étais et mes convictions et mes croyances, mais aujourd'hui, ça change. S'autoriser à porter ce nouveau message, effectivement, comme tu l'as dit, putain, ça peut être un vrai taf, quoi. Et j'imagine que ça peut te causer plein de retours négatifs, genre des gens qui peut-être te surkiffaient un jour vont se dire, attends, mais qu'est-ce qui se passe? Est-ce qu'elle m'a menti à l'époque et maintenant elle veut me revendre un truc?
Pas
hyper
forcément.
Intéressant, putain. Bah ouais, grave.
Pas forcément. Parce qu'en fait, ça, c'est pareil. On en revient toujours à la même histoire. C'est la petite histoire qu'on se raconte que si je change, les gens vont me détester. Surtout si je leur ai vendu un truc et que c'est pas du tout ça. Par exemple, moi, aujourd'hui, je suis plus du tout d'accord avec le discours que j'ai eu du mode de calcul de comment vendre son travail. Genre, je reprends la formation qui n'existe plus. Hein, ne me la demandez pas. Ça n'existe plus. dans la gestion de ses finances en freelance, dedans, il y a une partie où il faut calculer son taux horaire, où il faut savoir comment gérer toute cette partie-là. Avec le recul, maintenant, je me dis, mon Dieu, mais est-ce que c'est pas aussi ça qui a causé, entre guillemets, ma perte, dans le sens où, oui, ça fonctionne, mais à quel prix? Parce que je suis plus du tout d'accord avec ça. Je pense pas que ce soit... C'est une bonne donnée pour être un guide, mais calculer ses tarifs en fonction du taux horaire, non, c'est pas viable si tu veux passer ton temps à bosser. En fait, tu vas passer ton temps à bosser à l'heure, construire.
Ouais, parce que t'as un plafond horaire, quoi.
Ta vie, elle fait 24 heures et tu passes pas 24 heures à bosser, ni toute la semaine, quoi. Et pour juste, ça ne me plaît plus de justifier, tu vois, et d'enseigner ça pour parler d'argent et de parler de tarifs. Et je sais que dans ce que l'on fait aujourd'hui dans notre membership, qui est notre unique offre pour l'instant, c'est pas du tout comme ça que je vais l'avancer, et ça bouscule les gens, parce que tu vois, on a fait un appel hier avec une des membres, et une des choses qui revient, c'est oui, mais faut quand même que je justifie qu'il y a assez de choses pour pouvoir mettre ce prix-là. Et ouais. Qu'est-ce qu'on fait? On revient toujours à la même chose, on revient toujours aux croyances que l'on a, et c'est des choses que, perso, j'ai pas vu ou pas eu, en tout cas sur le marché français, d'aide sur des choses avancée, payante ou même gratuite sur ce domaine-là, et c'est dommage parce que c'est vraiment le pilier de tout, quoi. Pour arriver à mettre un prix sur ton travail, il faut que tu le vois comme suffisant, comme la valeur qu'il est, et pouvoir ensuite le vendre et oser le faire. Si toi-même tu le vois pas, le truc, tu peux mettre n'importe quel prix, même 2000 balles, si derrière il y a des clients même qui viennent ou des prospects qui viennent qui sont intéressés. Ça se sent, et ça, c'est ce que je dis à chaque fois, ça se sent, les gens, quand vous ne croyez pas en votre travail, et même si ça vaut ce prix-là, les gens achèteront pas forcément, ou peut-être une fois, et vous allez vous être dans un inconfort, un truc qui pue, et après, il va falloir gérer ça, donc on revient toujours à la même chose.
C'est drôle. C'est clair. Ben, tu vois, je fais un truc avec Julia, et je sais que vous faites régulièrement des épisodes ensemble avec Julia, et que tu la connais bien. Je fais un truc la semaine prochaine où en gros je la coach publiquement en Zoom sur le mindset.
Ça
et justement
cool.
Ça va être trop bien. Et une des raisons pour lesquelles on fait ça, et pour moi ça m'intéresse de ouf, tous ces trucs de ce qui se passe à l'intérieur de ta tête créer ce qui se passe à l'extérieur. Et c'est ça aussi les croyances, c'est si tu crois quelque chose dur comme fer, inconsciemment, ton cerveau va chercher partout dans tout ce que tu vois, dans ta réalité, des choses qui valident cette croyance, donc ça la renforce, donc ça devient de plus en plus ta réalité. Ce qui est l'explication plus terre-à-terre et rationnelle que une explication juste ce que tu as dans ta tête devient ta réalité. Et du coup, je trouve ça hyper intéressant à quel point, et il y a plein d'études scientifiques qui sortent tout le temps et de plus en plus, qui démontrent que notre manière de voir le monde comme s'il y avait un filtre devant nos yeux définit ce qui se passe dans notre réalité. Et effectivement, sur l'argent et nos tarifs et nos prix, c'est, je pense, un des endroits où ça se matérialise le plus. Parce que si on est convaincu que ça vaut rien, ben, on convaincra les gens que ça vaut rien. C'est et ça. Ça parle, et je pense une des raisons pour lesquelles ça bloque beaucoup les indépendants, c'est que on a l'impression que notre tarif, c'est un reflet de notre valeur en tant que personne. Et du coup, les gens, ça bloque beaucoup, je pense, ce rapport-là.
Ouais, on a, mais il y a de grosses croyances par rapport à l'argent. Et si j'en parle, c'est parce que moi-même, j'en traverse encore et j'en ai traversé beaucoup. Et je sais qu'on est nombreux et nombreuses à le vivre. Et c'est aussi ça qui conditionne le fait de pouvoir être payé pour ce que l'on fait et de vivre de son business, parce que j'attire encore des personnes, et je pense que c'est lié au contenu que j'ai produit et sur le pivotement. Quand on pivote un business, faut aussi pouvoir mettre à jour tout le reste, et je sais qu'il y a des contenus par exemple qui sont plus forcément à jour sur l'alignement qu'on a, et tu vois, je reçois encore des mails de personnes qui joignent ma liste email et qui me disent, si tu fais du business, si c'est juste pour l'argent, je suis pas la personne concernée. Et à chaque fois, ça me fait sourire parce que je me dis, c'est un excellent rappel du fait que c'est hyper important justement de parler de ça, parce que un business, c'est aussi, c'est pas ça, mais c'est la condition première, c'est aussi gagner de l'argent avec ce que l'on fait. C'est du business, c'est pas une passion où tu fais ça sans condition, sans avoir justement de. Ouais, tu t'en fiches en fait, tu fais juste pour ton propre plaisir et t'as rien ni personne qui est censé te dire quoi que ce soit. Quand tu as ton business, c'est aussi pour gagner de l'argent. Et combien de personnes j'ai accompagnées qui justement viennent me voir pour un truc bien précis de « oui, j'aimerais bien communiquer sur les réseaux sociaux, je ne sais pas comment faire » ou « oui, construire mon offre, c'est difficile, je ne sais pas quoi faire ». Et à chaque fois, ça n'y manque jamais, il y a toujours un moment donné où on parle de ta perception de l'argent, la valeur que tu as par rapport à ça, parce qu'en fait, ça conditionne aussi la façon dont tu crées, dont tu proposes ton travail à ton audience. Et comment tu vas le vendre, parce que c'est bien de créer, mais si après tu le vends pas, ça va pas se faire tout seul. Et chez les femmes, c'est un truc assez important de pas oser le faire.
Hyper intéressant. C'est quoi du coup, si t'avais un truc à partager sur ce sujet de l'argent pour les gens qui nous écoutent, pour qu'ils aient une petite réflexion ou un petit travail à faire suite à l'écoute du podcast sur ce sujet? Ce serait quoi cette réflexion, cet exercice, cette idée je sais pas si t'as un truc à partager là-dessus.
Quelque chose par rapport à l'argent. Ouais. Qu'est-ce que je pourrais partager? J'ai tellement de choses. C'est un sujet
un
tellement
qui,
vaste.
Un truc qui toi t'a fait du bien sur ton rapport à l'argent par exemple et à ta valeur.
De se demander pour, d'écrire dessus. Moi, ce qui m'a énormément aidé cette année, c'est d'aller creuser les choses, et l'écriture m'a aidé à travers une application. J'ai juste utilisé une application pour écrire, mais de se demander. La question aujourd'hui, c'est quoi, par exemple, de se demander pourquoi je veux pas mettre ce prix-là sur mon tarif ou enfin sur mon offre, ou pourquoi j'arrive pas à vendre ce service. Vraiment, écrire tout ce qui vous passe par la tête et de se poser juste une question, celle qui vient, de pas chercher à la question parfaite, mais vraiment d'écrire dessus. Si c'est l'argent qui vous pose problème, ça marche sur tous les sujets, et de le faire naturellement chaque jour sans trop me poser de questions sur un mois là en cette année, ça m'a fait énormément de bien, et c'est ça aussi qui m'a permis d'aller super vite sur ma croyance, ma peur de manquer d'argent, parce que combiné à ma thérapie, ça m'a permis à chaque, d'ailleurs ça fait 3 séances où à chaque fois, on appelle ça des séances dépressiogènes, parce qu'en fait, c'est dur. Et à chaque fois, je pleure parce que je suis là, mon Dieu, mais en fait, c'est dur. Et en fait, c'est parce que il y a un truc qui sort, donc tu sens que t'avances. Et le fait d'avoir écrit sur ça, je sais que ça a été le travail en amont pour travailler ensuite sur, ça fait vraiment du bien. C'est dur, mais ça fait du bien.
Ouais. Ben, ça me fait penser à ce que tu disais tout à l'heure sur l'effet miroir de ton extérieur, sur ce qui se passe à l'intérieur. Et moi, j'utilise beaucoup l'écriture comme ça aussi, de une fois que c'est posé dans mon carnet ou quelque part, en fait, c'est un miroir où je me rends compte de ce qui se passe dans ma tête. Et là, tu peux le travailler parce que tu l'as extériorisé, tu l'as posé, et ça devient plus concret en te disant « Ah tiens, c'est ça que je pense ? Ok, maintenant, comment je bosse dessus ? Et qu'est-ce que je peux faire par rapport à ça, quoi ?» Donc, c'est vrai que c'est un exercice hyper important et intéressant, et je pense qu'on peut le faire, comme tu disais, sur tous les différents sujets et domaines de notre vie, quoi.
Un truc que je veux juste dire par rapport à l'argent qui s'adresse... Alors, à tout le monde. Je travaille particulièrement avec les femmes et j'ai pas de problème avec ça. Faut aussi, à un moment donné, se dire qu'on sert beaucoup mieux certaines personnes, même si on accueille tout le monde. C'est que c'est pas parce que vous demandez de l'argent pour vos services et vos offres que vous ne le méritez pas, et vous pouvez très bien servir les autres avec vos contenus gratuits. Vous servez tout autant avec vos contenus gratuits qu'avec vos contenus payants. C'est juste qu'il y a des personnes qui veulent aller plus loin avec vous, qui veulent faire d'autres choses avec vous et qui savent qu'en travaillant avec vous, elles vont pouvoir aller plus loin sur ce que vous savez faire et profiter de votre temps contre de l'argent, notamment. Et ne vous dites pas que vous profitez des gens, parce que j'ai aussi beaucoup ce discours de « oui, mais si je mets un prix sur mon travail, je vais pas pouvoir aider tout le monde ». Déjà, on n'aide pas tout le monde sur la Terre, c'est pas possible. Ça déjà, c'est accepter ça. Et se dire que vous aidez aussi beaucoup de personnes avec vos contenus gratuits, ça c'est un truc que j'ai pas trop eu de mal à accepter perso, parce que je sais qu'il y a des personnes qui ont lancé leur podcast, qui ont lancé leur business, qui ont avancé dans leur vie, qui ont fait plein de trucs juste avec... les épisodes de podcast que je publie toutes les semaines, parce que j'ai des mails et des commentaires et qui, rien que ça, tu te dis waouh, un impact, t'as un impact.
Ouais.
Et tu l'as aussi avec ce que tu vends et tu mérites de recevoir. Donc, au bout d'un moment, faut aussi accepter que tu peux pas aider tout le monde, oser demander de l'argent parce que ton temps il est précieux, et se dire que vous avez le droit de recevoir ce que vous avez envie de recevoir. Au bout d'un moment, il faut le faire. Donc,
c'est clair.
Y a pas du coup, tu vas dire sur l'argent, c'est presque, faudrait que tu fasses un podcast là-dessus.
Ouais, bah ouais, c'est un sujet infini, hein. Et du coup, tu me donnes envie de rebondir avec une propre petite histoire que je raconte souvent sur le sujet. Et après, malheureusement, il faudra qu'on passe aux questions rituelles de fin.
Eh oui.
Mais cette petite histoire que je raconte, c'est pour toi qui nous écoutes, si tu termines dans la rue, SDF, est-ce que tu penses que t'es dans la meilleure position pour contribuer ce que tu peux contribuer au monde et aux autres? La réponse est évidente, c'est non. Et pourquoi je te dis ça? C'est parce que pour donner ce que tu as de plus beau à donner, tu as besoin d'avoir les ressources pour le faire. Et tant que tu n'as pas les ressources, en temps, en énergie, en espace mental, mais aussi en argent, c'est les quatre ressources dont on dispose dans notre vie, tu ne pourras jamais donner tout ce que tu peux donner aux gens et tout ce que tu peux donner à tes clients, tout ce que tu peux donner au monde. Et donc, ton devoir pour donner ce que tu peux donner de plus beau, c'est de t'offrir les ressources dont tu as besoin pour le faire. Et l'argent en fait partie.
Mmh.
Et ça, j'aime bien cette image de te dire, si j'ai pas assez d'argent, je donne pas à la hauteur de ce que je pourrais donner, et donc j'enlève quelque chose aux gens. Donc ne pas vendre, c'est retirer des choses à d'autres personnes qu'on pourrait aider si on avait plus d'espace pour... Enfin, plus de ressources pour contribuer plus.
Mmh. Même à soi, hein. Moi, je vois que les motivations qu'on a pour gagner plus d'argent, c'est de, par exemple, j'ai envie qu'on recrute, j'ai envie de donner, même à soi, aux autres, et d'un point de vue expansion, c'est important. Donc, c'est intéressant, ta histoire.
J'espère qu'elle touchera les gens.
Oui.
On arrive sur les questions rituelles de fin, Julie. La première, c'est quelle est la plus grosse difficulté que tu as eu à traverser dans ton activité indépendante? Et comment t'as fait pour la dépasser?
La plus grosse difficulté, ça a été d'accepter de simplifier les choses dans mon business et d'accepter qui j'étais aussi. Parce que tu racontais, on parlait des produits que j'ai lancés. J'ai fait à un moment donné une formation sur le podcast parce que j'ai une expertise là-dessus. Et je disais au début que j'avais tendance à aimer à faire plein de choses à la fois. Si j'avais accepté qui j'étais, je me serais pas enfermée dans une seule chose et j'aurais peut-être trouvé le moyen de faire différemment. Et ça a été particulièrement difficile de faire ça tout en me prenant dans la gueule une presque dépression du postpartum, enfin, tout en même temps. Donc, accepter d'être qui je suis plutôt et d'aller creuser plutôt du côté émotionnel et de piloter de ce niveau-là plutôt dans mon business.
Plutôt que du niveau stratégie froide.
Absolument.
Entre guillemets, c'est ça que
t'entends. Que beaucoup trop de personnes font la promotion comme l'unique solution, et moi ma grande conviction aujourd'hui, c'est de rendre le pouvoir de décision et de réflexion aux personnes, et qu'elles se servent de ces stratégies, de ces méthodes comme des outils et pas comme une fin en soi, comme le pivot magique de tout ce qui va permettre de générer un business que tu veux.
Super intéressant. Ça me donne envie de creuser, mais je vais me retenir.
C'est toujours c'est hyper intéressant. Ça, c'est frustrant.
Ouais, bah ouais. Hein. Il faudrait faire le podcast d'une journée. 24 heures de podcast. C'est une émission radio. Un jour.
Ouais, ouais.
Un jour avec beaucoup de caféine.
Ouais, et beaucoup de personnes et beaucoup de ressources pour que tu puisses aller dormir un peu aussi pour déléguer.
C'est clair, c'est clair. Deuxième question rituelle, c'est... Si tu étais face à Julie, c'est son tout premier jour d'indépendante, donc tu viens de quitter ta boîte en CDI, premier jour, tu commences avec ton client dont tu nous parlais tout à l'heure, ouais. C'est quoi le conseil majeur que tu lui donnes ?
Déjà, de ne pas bosser, hein. Ce serait bien de... Enfin, mais j'aurais dit, mais stop, en fait. Genre, tu bosses pas, même pendant plusieurs jours, quoi, mais tu ne bosses pas, tu ne prends pas ton ordi. Comme tu vas le prendre pendant les vacances alors que c'est de la merde. Non, tu fais pas ça. Non, stop. Genre, pause. T'en as bien pris dans la gueule. Donc là, c'est le moment de te faire plaisir. Tu prends au moins ta journée et tu te fais plaisir, quoi. Ça, j'aurais bien aimé. Et j'essaie de me le dire encore aujourd'hui parce que c'est quelque chose qui est bien ancré et qu'il faut constance, réflexion tous les jours. Donc ça, c'est un gros travail.
Tu m'autorises à partager une petite métaphore sur ça ?
Ah, vas-y, vas-y.
Enfin, d'ailleurs, c'est marrant, je te demande l'autorisation alors que c'est mon
dans
podcast.
Ton propre podcast, moi, ça...
mais c'est toi, tu es l'invité d'honneur. Non, mais j'ai une réflexion que j'aime bien sur ce sujet de se laisser des endroits de pause qui représentent un vide dans notre activité. Ouais. Et j'avais une amie qui avait fait un talk sur le sujet il y a quelques années maintenant, et elle avait utilisé une métaphore qui est restée, que j'adore, c'est dans une maison, l'endroit qui a le plus de sens, c'est le vide, c'est l'espace dans lequel tu habites. Si une maison n'était que du plein, elle servirait à rien, parce que tu peux pas habiter dedans. Mmh. Et du coup, j'ai l'impression que j'aime bien utiliser cette métaphore en me disant, les moments de vide et de pause dans notre activité, c'est presque les plus importants, parce que c'est là où ton cerveau range tout et tu vois, ok, c'est quoi la nouvelle direction pour moi, quoi.
Et s'il n'y avait que du plein, avec une métaphore.
Ça ne sert à rien. Vas-y, c'est métaphore time.
Ouais, dédicace de ma psy. Non, mais je partage, c'est pour ça aussi que j'adore aller voir ma psy, parce que je partage aussi les exercices qui marchent bien chez moi. C'est exactement avec cette histoire du vide, c'est que, bon, perso, j'ai du mal avec le vide, avec les silences, j'ai tendance à beaucoup parler et j'essaye de m'habituer à ça. Mais on peut pas ranger dans un cerveau comme un parking totalement plein. S'il y a pas des places vides, on peut pas ranger des choses. Et c'est exactement le même principe. C'est, faut libérer de l'espace. Sinon, c'est le bordel. T'as tout le monde qui gueule, qui s'insulte. Et puis, tu peux pas rentrer des trucs. Tu ne peux pas, en fait. Faut accepter ça. Et il faut libérer de l'espace pour pouvoir faire rentrer d'autres choses. C'est valable avec tout. Comme l'argent. Accueillir de l'argent. Mais aussi, tu parlais de la maison, le coût des clients que t'aimes pas ou tous les trucs que t'aimes pas, tout ce que t'accueilles qui est négatif, parce qu'on a tendance à accueillir beaucoup plus le négatif que le positif. Est-ce que vous préférez garder toutes ces merdes, en fait, et que ce soit là et que ça prenne toute la place alors que vous rêvez d'avoir des choses super positives et que vous avez envie de plein de trucs, ou faire de l'espace déjà, se débarrasser de ça, ne pas les accueillir, ne pas les accepter, et justement avoir cet espace pour accueillir tout ce que vous aimez. Ça, c'est un truc qu'il faut se poser régulièrement, parce que ça fonctionne à plein de niveaux, mais c'est hyper important.
Trop bien. T'as un peu pris d'avance sur la dernière question qui est, s'il y a une question que t'as envie de poser aux gens qui nous écoutent pour qu'ils prennent un vrai temps de réflexion, c'est quoi ? Et du coup, je vais t'en demander une autre si ça te va.
Ouais, mais je pense qu'une des questions qu'il faut se poser, et ça c'est très régulièrement, c'est qu'est-ce qui vous empêche de vous faire plaisir, d'être vraiment vous-même dans votre business. Et quand je dis ça, c'est que souvent, quand on n'est pas vraiment soi, et ça peut avoir une signification subjective, et ça, c'est le cas pour tout le monde, mais quand on n'est pas vraiment soi-même et qu'on porte un masque et qu'on fait en sorte de se comporter selon son interlocuteur ou la situation à laquelle on fait face, eh ben, on n'est pas forcément bien, en fait. Et peut-être qu'aujourd'hui, c'est par rapport à un client, peut-être que c'est par rapport à une situation, peut-être que même vous voilez la face, comme moi j'ai pu le faire et comme ça m'arrive encore, de me dire « oui, mais c'est ça la bonne décision ». Vous arrivez à vous convaincre du truc, mais en fait, c'est pas vraiment ça. Qu'est-ce qui vous empêche de faire vraiment ce que vous avez envie pour vous, en fait, d'être vraiment vous-même ? Et ça aussi, c'est hyper intéressant, parce que quand on creuse, on s'aperçoit que on fait pas forcément ce qu'on veut et qu'il va falloir trouver le courage de soit dire non à un client, de lui dire bah non, finalement c'est pas possible parce qu'en fait moi je veux faire autre chose et c'est vraiment ça, ou finalement bah je vais pas lancer cette formation parce que je la fais parce que ça marche chez d'autres, que j'ai les compétences mais finalement j'ai pas envie de le faire, je le fais pas pour les bonnes raisons, ça me fait pas plaisir au fond. Donc c'est un questionnement qui est super intéressant et je vous invite à vous poser.
Excellent, merci pour cette question Julie, c'est top. Où est-ce que j'envoie les personnes qui veulent discuter avec toi, suivre ce que tu fais, se questionner plus sur le être soi? Je crois que tu as un podcast qui s'appelle comme ça. Mais...
ouais, je crois, c'est possible. Bah justement, je vous invite à aller l'écouter, ce sera un bon point de départ. Il y a une centaine d'épisodes, donc le podcast Être Soi, il est disponible partout. Après, sur les réseaux sociaux, c'est Kinoko Julie. Notre site va changer, ce sera kinoko.fr, donc pour la postérité de ton épisode, ce sera donc kinoko.fr, même si vous ne nous trouvez pas encore sur cette adresse, faudra chercher sur les réseaux sociaux. Et tu vois la stratégie de la fille qui prévoit le truc sur la durée. Et voilà, mais sinon, si vous voulez me trouver, vous finirez par me trouver parce que j'ai confiance dans le fait qu'on a toujours les personnes que l'on souhaite avoir dans sa vie ou qui nous font réaliser un truc, donc il n'y a pas de souci. Je suis là.
Excellent. Et sinon, au pire, les liens sont sur le site où l'épisode est hébergé. Cool. Si jamais.
Tant mieux.
Trop bien. Ben, merci beaucoup pour Julie, pour Julie, pour toi, pour cette discussion, virgule Julie. Ouais, merci, c'était top.
Merci de m'avoir invité. En tout cas, c'était super. Et bon courage pour la suite et pour les autres épisodes de ton podcast.
Avec grand plaisir. Merci. J'ai vraiment pris beaucoup de plaisir dans cette conversation avec Julie. J'ai l'impression qu'on a exploré ensemble des sentiers nouveaux et que cet échange permet d'ouvrir un bel espace de réflexion sur toutes les potentielles évolutions de chacun de nos business, et j'espère que tu te sens de la même manière à la fin de cet épisode. Personnellement, je ressens une envie d'avoir de plus en plus de minimalisme et de simplicité dans la façon d'opérer mon activité. Et je sens que ça, c'est très présent. Et en même temps, j'ai envie de continuer cette quête personnelle que je me suis donnée d'avoir un impact fort, conséquent, sur un grand nombre d'indépendants dont tu fais partie. Et cette quête-là, elle me donne beaucoup d'énergie au quotidien. Donc c'est, pour moi, la prochaine évolution du être davantage moi-même dans mon activité, ce sera de la simplicité et aussi de l'impact. Je me permets d'ajouter une question en plus à celle de Julie pour conclure sur cette belle quête d'être davantage soi-même dans son business. Et voici ma question. Pour toi, qu'est-ce que ça veut dire d'être pleinement toi-même ? N'hésite surtout pas à m'écrire pour me donner ta réponse, ça m'intéresse beaucoup de savoir ce qu'est ta réponse. Et j'en profite aussi pour t'inviter à rejoindre la newsletter, ma newsletter, qui te délivre chaque semaine des réflexions poussées que je décortique à fond pour t'accompagner dans ton aventure indépendante. Pour venir nous rejoindre et me lire chaque semaine dans ta boîte mail, tu as juste à te rendre sur thomasburbidge.com/newsletter. J'ai super hâte de t'y retrouver. Mais d'ici là, je te dis à très vite sur Young, Wild and Freelance. Bye bye.